Père Tocoli dans votre émission Culture et Spiritualité sur RCF Nice Côte d'Azur. Père Tocoli, bonjour.
Bonjour Alexia.
Voici aujourd'hui le 7e épisode de la série de Gérard Mordilla et Jérôme Prieur sur l'origine du christianisme. Elle s'intitule « Jour de colère ». Alors ma première question de cet entretien aujourd'hui, est-ce que la première épître aux Thessaloniciens est-elle le plus ancien document chrétien ?
Oui, disent les critiques littéraires, ceux qui font profession d'exégèse et qui ont étudié non seulement les textes, mais le vocabulaire, mais même le style, qui compare entre différentes épîtres, et puis qui compare avec la littérature qui n'est pas littérature religieuse. Oui, il semble que ce soit le document le plus ancien. Donc, en fait, ce serait la lettre, la première écrite par Paul, et le plus ancien de tout le Nouveau Testament, puisque tout le reste aura été écrit après. Mais avant de passer peut-être aux autres questions, il faut se rendre compte que ces estimations sont des estimations de probabilité. Il y a un certain nombre de preuves, un certain nombre d'arguments qui vous font dire ceci, plutôt que cela. Mais que nous nous trouvons ici, après 19 siècles et demi d'utilisation de ces textes. Deuxièmement, elles ont été, ces épîtres, c'est comment Paul lui-même qui le recommande. Elles ont été recopiées, et elles circulent entre les différents lieux. Donc, elle l'appellera des églises, églises locales, où ça va se passer. Donc, ça veut dire que les éléments qui peuvent perturber à la fois la traduction, deuxièmement, la transcription, deuxièmement, le transfert, font que nous ne saurons pas, même pour l'épître aux Thessaloniciens, si elle avait été, par exemple, recopiée plusieurs fois, quel était le numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Nous ne sommes pas dans une photocopieuse. Hein, il faut se faire copier à la main. Enfin, et c'est la dernière chose que je voudrais dire avant d'aller à autres questions, c'est que autant la première épître aux Thessaloniciens peut à coup sûr être attribuée à Paul, du moins à celui qu'on appelle Paul, bref, à un auteur qui semble être celui de 5 ou 6 autres épîtres attribuées à Paul, autant la seconde, vu sa composition, son style, comme je disais tout à l'heure, la comparaison même au plan morphologique des mots, etc., est à peu près aussi sûr de n'être pas authentique, c'est-à-dire de n'être pas de la main de Paul. Mais je répète, Alexia et chers auditeurs, tout cela est un travail d'expert, ce travail de personnes qui jouent avec des arguments de type scientifique, d'études, des mots, etc. Et il y a une marge d'erreur. Mais la probabilité la plus certaine parmi les chercheurs actuels, c'est effectivement d'attribuer à la première épître des Thessaloniciens, le plus haut degré d'ancienneté.
Alors, restons dans cette épître, notamment au chapitre 2, avec les versets 14 à 16. Alors, comment peut-on lire ces versets ?
Eh bien, on les lit ces versets de façon difficile, en ce sens qu'ils sont franchement, sinon antisémites, anti-juifs, anti-racistes, etc., tout ce que vous voulez, etc. Bon, on peut les lire comme tels. C'est-à-dire, on peut s'apercevoir que celui qui les a rédigés, de cette épître, qui est, elle, authentique, ce vocabulaire, c'est exactement là que ça s'adresse, ce vocabulaire et cette façon de s'exprimer sont tellement étrangers. Si je les donne en français, je préfère ne même pas les donner, parce que c'est une traduction. Il faudrait les voir en grec, et en grec ancien. Et donc, tout ce que j'ai dit tout à l'heure dans le premier thème abordé, s'applique ici. C'est-à-dire que ce sont des corps étrangers par rapport au reste de l'épître. Et en tant que tel, la critique interne des textes l'exclut. Elle les mettra entre guillemets, entre parenthèses, en italique, etc. Donc, elles font partie historiquement de l'héritage de l'épître, mais elles ne font pas partie, au même titre que le reste du texte, de l'authenticité de l'écriture.
Alors, justement, est-ce que vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, est-ce que Paul peut en être l'auteur ?
Paul peut en être l'auteur, oui et non, j'allais dire, je m'excuse de répondre en normand. C'est-à-dire que l'emportement de Paul en tant que juif, pharisien, de la stricte observance, peut d'une part, et il l'a prouvé, s'identifier entièrement avec son origine juive et dire « fils de juif, je le suis », etc. « J'ai été ceci, j'ai été l'élève de Gamaliel, j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Il se revendique comme étant juif, mais alors plus juif que lui, tu meurs, d'une part. Et d'autre part, nous voyons la colère, l'exacerbation, la tristesse finalement de voir que ces co-religionnaires, donc ceux qui sont juifs comme lui, n'arrivent pas à comprendre, à admettre et finalement à adhérer à Jésus de Nazareth. Donc on peut estimer que les colères de Paul contre ses propres frères est vraie. Mais ce que, alors c'est le premièrement, oui. Mais deuxièmement, en les termes qui sont mis là, cela me paraît tout à fait excessif, ou alors Paul est devenu fou, a perdu la tête, a laissé courir sa plume sans la contrôler. Mais si vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure, que ces épîtres étaient recopiées et qu'elles étaient disséminées aux communautés les plus proches, par les voyageurs, qui continuaient, eux, de voyager. On peut estimer ce qui se passe dans beaucoup de manuscrits des évangiles, que celui qui l'a recopié a voulu ajouter quelque chose de sa propre plume, sachant qu'il n'a pas à être contrôlé, mais qu'il disait exactement ce qu'il pensait, lui, qui transcrit, ou ce qu'il interprétait de la pensée de Paul, pensant le connaître. Voilà, nous avons ici non pas affaire à un faux et à un usage de faux, mais à quelqu'un qui, pour mieux faire comprendre, est allé au-delà de sa compétence. Mais nous n'aurons jamais aucune certitude.
Je vous propose de vous retrouver tout de suite après quelques notes de musique. Nous nous retrouvons avec le père Vincent Paul Toccoli dans votre émission Culture et Spiritualité, le thème Jour de colère dans la série L'origine du christianisme. Nous avons vu dans cette première partie, nous avons même évoqué deux versets, les versets 14 à 16 du chapitre 2 de cet épître. Alors donc justement, ces versets auraient-ils été ajoutés postérieurement ?
Oui, c'est un peu la thèse que j'ai développée tout à l'heure. Et si vous employez le conditionnel passé aurait-il pu être ? On peut dire que oui. C'est-à-dire qu'il y a deux solutions, pour résumer un peu ce que j'ai dit avant la pause. Ou l'attitude psychologique de Paul, une névrose, une colère, un emportement, lui fait écrire quelque chose qui va être excessif jusqu'à pouvoir le faire traiter d'anti-judaïque ou d'antisémite. Alors que le sentiment premier, c'est une identification à son peuple, et en même temps, une difficulté, une peine, une tristesse de voir que les autres juifs n'ont pas atteint la pleine connaissance du mystère même de la Bible, qui, d'après Paul, et d'après les chrétiens, débouche sur l'apparition et la révélation de Jésus-Christ. Donc, ça lui aurait échappé. Ça me paraît peu probable. Mais ça aurait pu, éventuellement, lui échapper. On est capable de tout, même Paul. Donc, c'est pas un problème. Ultérieurement ou postérieurement, oui, c'est tout à fait possible aussi, dans la mesure où, comme je le disais, ce n'est pas Paul qui l'ait rédigé. Il avait un secrétaire. On peut imaginer Paul allant se coucher parce qu'il est fatigué. Le secrétaire relisant le début de l'épître y ajoute quelque chose, pensant traduire la pensée de Paul. On peut imaginer tous les scénarios, ma chère Alexia, tous les scénarios possibles. Mais postérieurement aussi, pour une seconde raison, c'est-à-dire que, comme je l'ai évoqué, ces épîtres, sur la demande même de Paul, étaient recopiées et transmises par les voyageurs, par les marchands qui prenaient un bateau, un truc qui allait d'une ville à l'autre de la Méditerranée orientale, et être transportés. Voilà, ce sont les deux choses que... Mais je le répète, et ça, il faut quand même se le mettre dans la tête une fois pour toutes, c'est que nous n'aurons pas la réponse. Et ces deux versets sont effectivement très forts, anti-judaïque, antisémite.
Alors vous avez répondu oui sur le fait qu'ils auraient pu être rajoutés postérieurement. Simplement, quand est-ce qu'ils auraient pu être introduits dans ce texte?
Eh bien justement, c'est Paul donc va mourir dans les années 50-60. Les épîtres circulent, a commencé de travailler dans les années 40-45. Donc ça fait une quinzaine d'années que ces lettres circulent. D'ailleurs, beaucoup ont dû être perdues. Et puis, comme je vous l'ai dit, après sa mort, on a continué d'en écrire sous son nom parce qu'il avait l'autorité de Paul. C'était peut-être des amis très proches, des élèves, des gens que Paul avait convertis et qui se réclamaient de sa pensée. On peut imaginer tout. Vous savez, ces 15 années, bien que nous sommes dans une période extrêmement trouble, je l'ai dit et pas assez répété, peut-être que les auditeurs n'ont pas écouté les émissions précédentes, mais la période qui va depuis la mort du Christ, 33 environ, jusqu'à la destruction de Jérusalem et du Temple en 70, ces 35 années environ vont connaître des bouleversements extraordinaires sur le territoire d'Israël, à la fois pour les Juifs en tant que Juifs, c'est-à-dire tous Juifs confondus, qui vont toujours être soupçonnés par le pouvoir romain de fomenter des révoltes et donc ils vont être contrôlés, réduits, punis et persécutés, d'une part. Et d'autre part, des Juifs dits comment traditionnels, enfin des Juifs de la Bible, qui ne reconnaissent pas Jésus de Nazareth et qui persécutent donc leurs confrères juifs. Ça, c'est une chose. La seconde chose, c'est qu'au cours de ces 35 années, l'émigration vers l'extérieur va être de plus en plus importante, puisque la pression des Romains se fait de plus en plus pressante, justement. Jusqu'à 70, où les Romains vont décider, avec Titus, l'empereur, de détruire carrément tout ce qui se trouve sur le territoire d'Israël. Donc, c'est-à-dire que nous avons, au fur et à mesure que se déroulent ces 30 ans environ, nous avons une diminution de plus en plus importante de la population juive, qu'elle soit chrétienne ou qu'elle soit juive-juive, sur le territoire d'Israël. Ce qui veut dire qu'on emporte tout ce qu'on a, et surtout, pour ceux qui sont croyants, les textes. Quels textes? Eh bien, les textes que nous avons par morceaux, qui ont été repris ici, repris là-bas. Ce qui vaut pour les évangiles, vaut pour les épîtres de Paul, que peut-être certaines lettres étaient venues jusqu'ici. Et que certains juifs, habitant Jérusalem, mais ayant adhéré à Paul, et donc au Christ, critiquent leurs confrères de telle façon, en des termes tels de violence, qui font que ça devient antisémite. Mais je crois que c'est de l'antisémitisme intra-juif, et non pas à l'extérieur. Période extrêmement importante.
Père Toccoli, merci. Nous terminons ainsi notre septième émission sur consacrée à l'origine du christianisme, une série réalisée par Gérard Mordillat et Jérôme Prieur. C'était votre émission Culture et Spiritualité sur RCF Nice Côte d'Azur. Bonne continuation à l'écoute de nos programmes.